Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouilloux dans le rôle de Patrick Trouilloux.
Et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.
Auditeurs de Radio Galade, bonsoir. C'est votre émission favorite du troisième jeudi du mois. Rediffusion le samedi qui suit à 11h. C'est Poker Menteur. Alors déjà, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette voix de canard ? Je n'entends pas la voix veloutée habituelle, mais bien sûr, notre ami Franck a pris un peu de distance, d'accord ? Il est encore dans le générique, on va pas le lâcher comme ça. Mais on lui fait un petit coucou. On se souvient avec émotion des quelques émissions qu'on a fait ensemble pendant 2 ans. On a parcouru le monde, le Venezuela, la Russie, l'URSS avant, l'Allemagne, la Chine récemment. On a beaucoup parcouru le monde. J'ai souvenir aussi d'une émission assez mémorable sur la Première Guerre mondiale. Il y tenait et il nous a apporté les moyens de faire quelque chose de très beau. Donc voilà, un petit coucou à Franck, mais vous inquiétez pas, je le garde dans un coin de mon viseur et il reviendra. On va dire au mois d'avril, tiens, ce serait pas mal au mois d'avril pour une émission sur, devinez quoi, sur l'anarchie. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de tout autre chose, bien entendu. Je ne suis pas seul, car je n'aime pas la solitude, je pleure quand je suis seul. Donc j'ai un invité qui s'appelle Hervé, donc qui va se présenter, mais surtout qui va nous dire de quoi nous allons parler aujourd'hui. Bonjour. Hervé, bonjour.
Bonjour Patrick. Donc je suis Hervé Bruno, je vais parler de la logothérapie de Viktor Frankl.
Ça, c'est génial parce que je suis quasi certain que 99% de nos auditeurs ne savent pas ce qu'est la logothérapie, ce qui était mon cas quand on en a parlé ensemble. Donc, qu'est-ce que la logothérapie en une phrase, un petit pitch ?
La logothérapie, c'est une science pour travailler sur la santé mentale.
D'où le terme thérapie ?
En étant sur la voie du sens de sa vie.
D'accord, d'accord. Et là, on approche un peu du vif du sujet. Une thérapie qui porte sur une réflexion que chacun peut avoir sur le sens de notre vie.
Voilà. Thérapie, il faut l'entendre dans le sens prendre soin. Ce n'est pas tellement dans le sens d'une...
Une pathologie éventuelle.
Voilà, oui, tout à fait.
On est d'accord.
Ouais. On travaille pour renforcer la santé mentale à l'écoute de ses aspirations profondes.
Un travail sur soi-même, un travail de connaissance de soi-même.
On peut dire ça, oui.
D'accord, oui, il s'agit de donner du sens. Eh bien, c'est un sujet tout à fait intéressant et tout à fait mystérieux. Donc, c'est parti pour une cinquantaine de minutes de balade. Je vais d'abord te laisser la parole et tu nous as parlé de l'auteur de cette discipline qui est Viktor Frankl. Et si tu peux nous dire qui est ce Viktor Frankl, comment est-il arrivé à penser ça. Vas-y, on t'écoute. Parle-nous de Viktor Frankl.
Alors, j'ai d'abord envie de vous dire un petit peu comment j'ai découvert cet auteur. Donc, moi, pour situer, je suis enseignant en lycée professionnel en maths sciences.
D'accord.
J'ai commencé un virage professionnel en 2012. Je me suis inscrit à l'université Lyon 3 pour suivre des cours de philo en philosophie morale. Et puis en 2013, un ami m'a parlé de la logothérapie.
D'accord.
Il m'a dit lis un bouquin, ça va sûrement t'intéresser. Et ça a été le cas. J'ai tout de suite été séduit par la vision de la vie et de la personne. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit voilà mon école de pensée et voilà le métier que je veux faire.
D'accord.
Donc je suis allé voir une logothérapeute en disant aidez-moi à m'orienter dans cette direction-là et expliquez-moi comment on devient logothérapeute.
Moi, je trouve ça génial déjà qu'un prof de sciences et de maths ait comme ça cette volonté d'aller vers des réflexions philosophiques, des réflexions sur le sens. Je trouve ça assez formidable. Donc, tu es une perle rare et nous allons découvrir tout ça. Alors, brief-nous un petit peu sur ce fameux Viktor Frankl.
Alors, Viktor Frankl est né en 1905 à Vienne, en Autriche. Il était très, très précocement préoccupé du sens de la vie, puisque à 15 ans, il a fait sa première conférence sur le sens de la vie.
Précoce, le garçon.
Précoce et brillant aussi. Ouais. Il était en lien avec Freud.
Oui.
À 16 ans, il s'est beaucoup intéressé à la psychanalyse. Il a correspondu avec Freud. Ils étaient dans la même ville. Et alors qu'il avait 19 ans, Freud a publié le premier article de Frankl dans sa revue de psychanalyse.
Donc, précoce et brillante, tu as raison d'ajouter ce mot, incontestablement.
Oui. Alors, à 20 ans, donc en 1925, il commence ses études de médecine. Il voulait devenir médecin. Il s'occupait de... très préoccupé par le soin des personnes. Et il se rapproche d'un autre penseur en psychologie, c'est Alfred Adler. Tu vas nous en parler
tout à l'heure. Oui, je vais en parler tout à l'heure, oui, tout à fait.
Et de sa psychologie individuelle.
D'accord.
Celui-ci, Alfred Adler, publiera le deuxième article de Frankl dans la revue qu'il dirige.
Ok.
Mais il sera exclu de la société de psychologie individuelle parce que les vues de Frankl étaient contradictoires avec celles de
Adler. Alors, il est exclu par Adler.
Oui.
D'accord, c'est marrant. On va voir aussi que Adler s'est fait aussi exclure par Freud. C'est très rigolo tout ça. On y reviendra.
Alors, il est interne en médecine et il met en place pendant ses études un programme de lutte contre le suicide dans la population étudiante fera chuter de manière importante le taux de suicide dans cette population grâce à la logothérapie.
D'accord. Donc déjà des résultats concrets.
Oui, oui, oui. Il était très préoccupé par vraiment ce qui est concret, s'intéresser à la vie des personnes dans leur concrétude.
Je sais pas si ouais. Mais... C'est pas mal, ça nous rappelle un peu Ségolène Royal. C'est bien. Vas-y, continue.
Peut-être que Ségolène Royal a lu Victor Frankl
Pourquoi pas.
Donc il devient médecin psychiatre à 25 ans, il exerce à l'hôpital de Vienne. Il sera ensuite responsable du pavillon des femmes suicidaires à l'hôpital psychiatrique de Vienne, puis responsable du service de neurologie à l'hôpital Rothschild de Vienne.
D'accord.
Dans cet hôpital, l'Allemagne nazie avait déjà une influence sur l'Autriche et il ne pouvait soigner que des patients juifs.
D'accord.
Il a rédigé des faux diagnostics pour déjouer le programme d'euthanasie des malades mentaux.
Ouais, on est dans un contexte historique extrêmement lourd.
Oui, et qui sera important pour la logothérapie.
On va le voir.
Donc en 1943, il est déporté avec sa femme et ses parents, et il sera le seul survivant de ces camps de concentration.
Voilà, il va faire l'expérience terrible de la déportation et des camps de concentration.
Oui. À son retour de il va dicter en 9 jours le livre qui l'a fait connaître au monde entier, qui s'appelle Un psychiatre déporté témoigne, qu'on trouve aujourd'hui sous le titre « Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie ».
Et que tu m'as fait découvrir, que j'ai lu et qui est effectivement extrêmement fort et extrêmement marquant.
Oui. C'est l'un des 10 livres qui a le plus marqué le lectorat aux États-Unis.
Oui, mais ce n'est pas étonnant du tout.
Du 20e siècle.
Ce n'est pas du tout un pavé, environ, mais c'est 100 pages qui pèsent très très lourd.
Oui. Dans ce livre, il montre comment avoir un sens à sa vie donne des forces pour vivre. Et il a pu vérifier sa théorie dans ce contexte extrême de la détention concentrationnaire.
Voilà.
La suite de son parcours est celle d'un universitaire, d'un conférencier et d'un écrivain au parcours brillant. Il est invité par plus de 200 universités à travers le monde et reçoit 29 titres de docteur honoris causa.
Donc une vraie consécration internationale. Ses travaux sont reconnus, sa personne est reconnue.
Oui. On peut ajouter que Frankl est docteur en philosophie également. Il a soutenu sa thèse en 1948.
Comme toi, un spécialiste scientifique qui s'intéresse aux questions philosophiques.
Oui, moi, je ne suis pas du calibre de Viktor Frankl.
C'est pas grave, on suit sa trace.
Un humble disciple.
Voilà, exactement.
Il a aussi obtenu son brevet de pilote. Il a fait de l'alpinisme, lui qui avait peur du vide. Il avait vraiment beaucoup de vertige.
Il a su vaincre cette peur.
Il a su vaincre cette peur,
ça, c'est intéressant.
Notamment avec l'intention paradoxale dont nous parlerons.
On va en parler, oui, tout à fait.
Voilà, pour terminer, il est mort à 92 ans, en 1997, à Vienne. Et la logothérapie est alors étudiée et pratiquée dans 27 pays différents.
Voilà. Et ce qui est très étonnant, en fait, c'est que c'est assez peu connu en France, mais beaucoup plus dans d'autres pays. Hein, d'accord ? Et c'est pas parce que c'est peu connu en France qu'il faut croire que c'est un mouvement mineur, pas du tout. C'est un mouvement très important. Simplement, la France s'est passée un peu à travers des mailles du filet. Mais bon, c'est pas très grave. Merci pour cette première présentation. Alors, ce qu'on va faire, on va passer à la partie suivante, où là, je vais un petit peu essayer de préciser le contexte historique, en quelque sorte, le contexte historique de ce début du XXe siècle. Je vais même remonter un tout petit peu au XIXe siècle pour expliquer ce qu'était la psychologie à cette époque-là, la psychologie clinique, la psychologie dynamique. Hein, on peut utiliser tout un tas de termes pour parler de ça, de manière à mettre un petit peu en contexte l'arrivée de Viktor Frankl. Alors évidemment, il y a un monsieur qui est incontournable, si on parle de tout ça, c'est Sigmund Freud, bien qu'il faut savoir qu'avant, la notion d'inconscient, c'est pas Freud qui l'a inventé, d'accord ? La notion d'inconscient, elle a été découverte et postulée dès le XIXe siècle par des philosophes, on peut parler de Schopenhauer, Schelling également, et par d'autres. Un philosophe plus récent, enfin début du XXe siècle, William James également. Mais Sigmund Freud, on va essayer d'articuler, est vraiment celui qui a rendu ce concept universel, en quelque sorte, à travers des méthodes d'investigation qui étaient très originales, puisqu'il travaillait sur l'analyse des rêves, il travaillait sur l'association libre, hein, d'accord, lors des thérapies, il demandait à ses patients à quoi lui faisait penser telle ou telle photo, tel ou tel terme, etc. etc. Et il a construit, Sigmund Freud, il a fait une construction théorique absolument colossale, d'accord, au fil des décennies de son activité. On peut parler de deux choses qui parleront un peu aux gens. Aux environs des années 1900-1905, il a postulé ce qu'on a appelé la première topique freudienne, c'est-à-dire les notions d'inconscient, de subconscient, de préconscient, il disait préconscient et de conscient. Et 20 ans plus tard, dans les années 1920, il a changé un peu son point de vue et il a plutôt parlé du ça, du moi et du surmoi. Donc voilà, une élaboration théorique assez extraordinaire, basée sur une idée fondamentale, l'idée de la pulsion. Hein, tous les êtres humains doivent gérer ces pulsions et parmi ces pulsions, les pulsions sexuelles sont les plus importantes. Et un succès mondial, colossal. Et on peut s'interroger sur le succès. Pourquoi ça a eu tant de succès, la psychanalyse ? Vous verrez après, je vais citer rapidement quelqu'un comme Pierre Janet, qui est un psychiatre français, qui est à peu près de la même période, qui a conçu une élaboration théorique tout à fait intéressante, mais qui n'a pas eu le dixième du succès de la psychanalyse. Et pour répondre à cette question, j'avais travaillé un peu dessus il y a quelques années, c'est du côté d'une philosophe des sciences, qui s'appelle Isabelle Stengers, que j'ai trouvé la réponse. C'est-à-dire qu'elle explique, cette philosophe des sciences, que toute hypothèse scientifique a besoin d'alliés extérieurs à la discipline pour pouvoir s'imposer, très souvent. Et la psychanalyse, c'est toute la société occidentale du XXe siècle qui a la trouvé comme alliée. C'est-à-dire que le déclin progressif d'une forme de familiale très très anglaise, très victorienne, basée sur la répression sexuelle, la montée en puissance du modèle familial nucléaire, hein, papa, maman et les enfants, la domestication progressive de l'image du fou, le fou devient quelqu'un comme nous, en quelque sorte, la montée de l'individualisme, la montée donc de une forme de bienveillance vis-à-vis des individus, tout ça, et la remise en cause du modèle patriarcal, tout ça, c'est le XXe siècle, et Freud, il leur apportait un schéma théorique pour aller dans ce sens-là, élaborer tout ça. Alors, il y a un autre élément quand même qui est important pour comprendre le succès de Freud, c'est aussi le fait qu'il a quand même construit son mouvement psychanalytique sous une forme très, très, très sectaire. D'accord ? Mmh. Et quand on va parler des expulsions diverses et variées qui se sont produites, c'est aussi cette logique très sectaire, avec lui comme gourou, qui exerce une domination sans partage sur son mouvement, qui explique aussi un des éléments du succès de la psychanalyse. Alors Freud, bon, on ne va pas s'arrêter plus que ça. J'ai cité Pierre Janet aussi. Même période, hein, début XXe siècle. Il est mort à peu près dans les mêmes années que Freud, c'est-à-dire début des années 40, dans les années 40. C'était un philosophe, puis psychologue, puis médecin, d'accord, donc quelqu'un de brillantissime, qui lui aussi travaillait sur l'inconscient et qui attribuait un rôle important à tous les traumatismes psychiques. D'accord, dans les problèmes type amnésie, neurasthénie, etc. etc. Aujourd'hui, Janet est encore considéré, étudié, analysé par des psychologues, d'accord, mais pas par le grand public. Le grand public a complètement oublié l'œuvre de Pierre Janet. On va peut-être donc parler d'autres... Alors avant de parler d'autres psychologues, parce que j'ai des grands noms qu'on va devoir aborder, Carl Gustav Jung et Adler, on va peut-être faire une petite pause musicale. Alors qu'est-ce qu'on écoute ? Ben, vous avez la surprise, on vous dira ça après. C'est parti. Thank you.
Poker Menteur.
Poker Menteur. Calade. Vous écoutez Poker Menteur sur Calade. Nous consacrons notre émission ce soir à la logothérapie. Mon Dieu, mais qu'est-ce que la logothérapie ? Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien raté, vous allez comprendre. Nous venons d'écouter, qu'est-ce que nous venons d'écouter, mon cher Hervé, qui est notre invité ?
Une sonate pour violon seul de Jean-Sébastien Bach, interprétée par Schering, un grand violoniste.
Bravo. Et à noter, pour violon seul et non pas pour violoncelle. Ça, c'est petit exercice de prononciation, c'est formidable. Donc j'étais en fait en train de présenter le contexte intellectuel, ce début du XXe siècle, qui est celui durant lequel Viktor Frankl a élaboré cette discipline qu'est la logothérapie. Alors j'allais parler de Carl Gustav Jung, qui est un autre acteur majeur avec Freud de la psychologie dynamique du début du XXe siècle. C'est un psychiatre suisse brillantissime, plus jeune que Freud, hein, mais qui a quand même rejoint la psychanalyse dans les années 1900-1910. Mais trop intelligent, trop brillant, qui commence à élaborer sa propre théorie. Freud ne l'a pas supporté, hein, je vous ai dit, on est dans une logique sectaire, hein, dans ce mouvement psychanalytique. Donc il se fait bannir du mouvement psychanalytique, ça ne va pas gêner plus que ça. Il va vraiment élaborer, faire une construction intellectuelle assez extraordinaire, hein, d'accord. C'est lui qui va développer les notions d'inconscient collectif, d'archétype, de type psychologique. Alors ça, c'est quelque chose qui est resté, la notion de type psychologique, qui est beaucoup utilisée en psychologie aujourd'hui. La notion plus pointue de synchronicité, etc. Je voulais faire un petit aparté, mais mettre un peu l'accent sur un moment précis de la vie de Jung, que je trouve assez intéressant. C'est un moment d'expérience mystique, en fait, qui a été essentiel dans son élaboration intellectuelle. C'est en 1913, il vient de se faire lourder par Freud, et il est vraiment très très mal, d'accord ? Il est dans une forme de dépression, il a l'impression d'être dans l'inconnu, et il dira après qu'en fait, à ce moment-là, il fait face à l'inconscient. Donc, il va démissionner, il va passer à travers des périodes où il va avoir des rêves, va avoir des visions qu'il n'arrive pas à comprendre. Et il décide de mettre tout en œuvre pour essayer de comprendre ça et de revivre ses expériences d'enfance, pour retrouver les émotions initiales, pour essayer de se sortir de cet état de dépression terrible dans lequel il est. Donc il a démissionné de son poste à l'université, il se met à écrire les rêves qu'il fait, et il se met à construire, avec des petits éléments, genre Lego, ça n'existait pas à l'époque, des petits villages pour donner forme aux visions qu'il a. C'est tout à fait étonnant. Et à un moment de pointe d'une forme d'extase mystique, il va écrire pendant 3 nuits de suite un ouvrage qu'il appellera les sept sermons aux morts, un écrit très très mystique, qui va être un moment de déclenchement de la suite de l'élaboration théorique de son œuvre. Donc c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Jung est quelqu'un qui a bien sûr remis en cause le postulat purement sexuel de la théorie de Freud. Lui, il allait bien au-delà. C'est quelqu'un qui a été très loin dans les logiques de spiritualité. Hein. Pour lui, la psyché humaine est en harmonie avec le cosmos. C'est lui qui a inventé les notions d'archétype, etc., etc. C'est vraiment un personnage passionnant. Mais je vais citer maintenant un autre personnage important, parce que lui, comme tu l'as dit, c'est Alfred Adler. Il a côtoyé donc Viktor Frankl. Alfred Adler, c'est pareil, hein, même génération que Freud, donc un peu plus âgé que Jung, mort en 1937 et né à peu près à la même période, à 10 ans près que Freud. Lui, on considère qu'il a fondé la psychologie individuelle. Alors, il a été un compagnon de route de Sigmund Freud, pareil, parce que quelqu'un de très brillant, d'accord, donc intéressé par la psychanalyse, il le rejoint, et devinez quoi, comme Carl Gustav Jung, il se fait lourder par Sigmund à la même année, en 1911, pour la même raison, hein, trop brillant, il commence à élaborer ses propres théories, en quelque sorte, ça ne plaît pas à Dieu Tout-Puissant, à Sigmund, donc il le fout dehors. Alors, c'est quoi cette théorie qui va vraiment fonder sa notoriété et son succès aux États-Unis ? C'est la théorie du sentiment d'infériorité. Alors, ça, c'est très étonnant. En fait, lui, par contre, ce qu'il apporte en plus par rapport à Freud, c'est qu'il prend vraiment l'individu dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il va intégrer les aspects sociaux, sociologiques de l'individu. Il ne prend pas l'individu tout seul, comme le fait Freud dans les thérapies analytiques. Il va s'intéresser beaucoup à la notion de sentiment d'infériorité que, globalement, nous éprouvons tous durant l'enfance. Parce que les adultes décident de tout, quoi. Point barre, hein, d'accord. On est tout petit, on est nul, et les adultes sont tout puissants. Et de la compensation de ce sentiment initiale d'infériorité qui donne lieu à des recherches de pouvoir, des recherches de puissance, de suprématie, qui pour lui est un élément fondamental de la nature humaine.
Et d'ascension sociale aussi.
Ouais, bien sûr, comme élément d'expression de cette recherche de pouvoir. Il va aussi beaucoup travailler sur les liens familiaux et notamment les liens dans la fratrie entre frères et sœurs, et notamment les liens de rivalité qu'il y a entre les membres d'une famille. Alors, beaucoup de succès aux États-Unis, je l'ai dit, de la psychologie adlérienne, parce que sans doute qu'elle allait un peu moins du côté du sexe, donc ça allait mieux pour les ricains. C'était quand même un peu hard, hein, la vision très sexe de la psychanalyse freudienne dans les années 20. Beaucoup de succès. Un élément un petit peu très étonnant qu'on peut ajouter sur Adler, c'est que sa psychologie avait vraiment une logique un peu finaliste, téléologique, comme si on avait une sorte de destin qui était tracé en quelque sorte. Donc voilà un petit peu toute l'œuvre d'Alfred Adler. J'en dirai pas plus parce que j'en connais pas plus malgré tout. Et je vais peut-être finir avec un dernier, alors pour la route on va dire, pour rigoler un petit peu, parce qu'il est peut-être un peu oublié, mais il était assez marrant quand même. Il s'appelait Wilhelm Reich. Alors Wilhelm Reich en France, non, pas très connu. Pareil, médecin, psychiatre, psychanalyste, né à peu près, hein, pas loin de Frankel, hein, je pense, c'est 1897, donc avec quelques années près, génération Frankel. Va mourir plus tôt, il va mourir en 1957 et il va mourir en prison, on verra pourquoi. Alors Wilhelm Reich, lui, son truc, c'est le fait que notre société est une société qui organise la répression sexuelle. Je rigole, mais bon, c'était pas complètement faux. Et donc, à travers son œuvre de dénonciation de la répression sexuelle et de quoi faire face à ça, c'est toute la société patriarcale qui va remettre en cause, bien entendu. Donc là, ça a un écho aussi, hein, et notamment aux États-Unis. Alors, pour une raison un peu opposée au succès d'Adler, lui aussi va avoir un certain succès aux États-Unis, mais du côté de ceux qui veulent dénoncer la société patriarcale. Et donc face à ça, il va insister sur une notion qu'il appelle, tenez-vous bien, la puissance orgastique. Orgastique, l'orgasme, on est d'accord ?
Oui.
Il dit « Seul l'orgasme sexuel permet d'éviter les névroses ». Je trouve ça génial. On est tous d'accord. Donc, il va beaucoup développer ça. Il va développer la notion de cuirasse caractérielle, c'est-à-dire tous les mécanismes qui font que nous réprimons notre désir sexuel. D'accord ? Donc, pour lui, une analyse, c'est là pour libérer l'énergie sexuelle. Bon, je rigole tout ça, hein, parce que c'est marrant, on ne va pas non plus pleurer. Il a aussi inventé une notion, puisque pour lui, l'énergie sexuelle, il en fait quelque chose qu'il appellera l'orgone, qui est pour lui quelque chose de biologique. Et là, pas de bol, les scientifiques vont très rapidement lui dire « Mais non, c'est des conneries, ça n'existe pas l'orgone ». Bon, c'est pas grave. Hein. Il va insister, il va bien développer cette notion de cuirasse caractérielle, excusez-moi. Bon, après, son problème, en fait, c'est que beaucoup de... A posteriori, on s'aperçoit en fait qu'à partir des années 30, il a commencé à péter les boulards et qu'il est devenu un peu fou, en fait. Donc, il a été très loin dans la propagation de sa théorie, au point qu'il a fini en prison, il a été arrêté, hein, et qu'il est mort en prison d'une crise cardiaque. Voilà. Donc c'était le dernier lascar que je voulais citer pour mettre un peu en contexte notre ami Viktor Frankl. Hein, c'était les pères de Viktor Frankl. Et on va revenir donc à notre ami Viktor Frankl et à la logothérapie, puisque maintenant je vais te proposer, Hervé, de nous présenter de façon un petit peu plus détaillée, si tu le veux bien, ce qu'est la logothérapie.
D'accord. Donc la logothérapie, elle s'est appelée la troisième école viennoise de psychothérapie, après celle de Freud et de Adler, tous trois viennois. Donc.
Exact, ils étaient tous trois de Vienne.
Et le point commun, enfin un des points communs entre Adler et Frankl, c'est qu'ils ont eu un gros retentissement aux États-Unis.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et en France, effectivement, beaucoup moins. Adler est très peu
connu. Non, très peu connu en France.
Ouais. Ouais. Comme Viktor Frankl.
Tout à fait.
Alors, parler de la logothérapie, je dirais, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu, c'est d'abord une vision de la personne et de la vie qui est ancrée dans l'expérience de Frankl, celle d'un homme, celle d'un médecin, soucieux de la santé des personnes qu'il rencontre.
Ouais.
Une vision de la personne ancrée dans l'expérience et élaborée philosophiquement. Il était un grand lecteur, notamment de Max Scheler.
Ouais.
Donc, tout ce que je vais dire, ce n'est pas Viktor Frankl qui l'a élaboré à partir de rien.
Il s'appuie
sur Freud, il s'appuie sur Adler et il s'appuie sur des philosophes comme Scheler.
Les autres aussi, Freud aussi, hein, il s'appuyait sur plein de monde, il n'aimait pas trop le dire parce qu'il était un peu mégalo, mais tous font comme ça, c'est normal.
Oui,
la pensée s'élabore comme ça au fil des siècles.
Tout à fait, oui. Donc, la logothérapie ne se présente pas d'abord comme un système ni comme un ensemble de techniques, mais c'est d'abord une vision de l'homme et de la vie. Alors le mot, pourquoi ce choix de mot
déjà.
Logothérapie, le logos, c'est pas le discours comme on a tendance
Oui, on a tendance à dire logos, c'est le verbe.
Oui, c'est le verbe. Le mot logique, par exemple, désigne quelque chose de raisonnable, de sensé.
Ouais.
Donc le logos, c'est le sens, c'est la signifiance, c'est la raison.
D'accord. Raison, sens, signifiance. Voilà. D'accord.
Le logos. Et puis thérapeo, c'est un mot grec qui veut dire prendre soin.
D'accord.
Donc la logothérapie, c'est le soin des personnes sur leur chemin de recherche du sens.
D'accord. Ok. Se soucier du sens de notre existence. Bon, voilà. C'est ma traduction à moi.
Oui. Et pourquoi se soucier du sens? Pourquoi est-ce si important? Parce que la recherche de sens est, selon Frankl, ce qui met la personne en mouvement.
Ouais.
Ce n'est pas, selon lui, comme le pense Frankl, nos pulsions, notre recherche de plaisir,
comme le pense Freud,
qui nous meut.
Tout à fait.
Comme le pense Freud, ou Adler, notre volonté de puissance.
Ouais.
Mais il dit que ce qui est fondamental, c'est la volonté de sens.
Ouais, ouais. Donner du sens à sa vie.
Voilà. Et cette volonté de sens, c'est la première affirmation d'une triade qu'il appelle la triade de la dynamique existentielle. Il y a plusieurs triades dans la logothérapie.
Ouais.
Donc je vais vous commencer par celle-ci. Donc,
ouais.
Le premier terme de cette triade, c'est la volonté de sens, comme je l'ai dit. Le deuxième, c'est le sens de la vie. Et le troisième, c'est la liberté de la volonté. Donc je vais expliquer un petit peu ce que
D'accord.
c'est que ces trois...
Tu vas nous expliquer là,
oui.
histoire que nos neurones ne fument pas trop.
Voilà. Alors là, au contraire, je pense qu'ils vont bien fumer après ça.
Ah, chouette.
La volonté de sens, je cite Frankl qui dit « Être humain signifie toujours être orienté vers quelque chose ou vers quelqu'un d'autre que soi-même.
»
Donc selon Frankl, le sens est à rechercher du côté de l'ouverture aux autres, au monde, aux appels de la vie.
D'accord, ça c'est déjà très fort.
Et c'est cette quête de sens qui nous meut, c'est ça qu'on doit trouver pour avancer, pour accomplir notre vie.
Se tourner vers l'autre en quelque sorte, au sens large du terme.
Vers l'autre et vers le monde, vers l'extérieur.
Voilà.
Pas vers soi.
Exactement.
La deuxième affirmation de la triade, c'est celle du sens de la vie. Selon Frankl, la vie a toujours un sens. Et en disciple de Frankl, je le confesse aussi. La vie a toujours un sens, même dans des situations qui en semblent dépourvues. Et Dieu sait si la détention concentrationnaire est une situation qui semble dépourvue de sens. Et Frankl, qui est passé par là, affirme que la vie a toujours un sens. Frankl dit « Il n'existe pas de situation que tu ne puisses ennoblir, soit en agissant, soit en acceptant. »
Mais ça, c'est des affirmations philosophiques très fortes. Hein. La vie a toujours un sens. Je veux dire, on pose ça comme une affirmation qu'on... Voilà, on pose ça. C'est ça. Voilà.
Ouais.
C'est un acte de volonté, quelque part, dire ça.
Oui, c'est ça.
C'est choisir de dire la vie a un sens.
Oui.
Voilà,
oui,
c'est
oui.
un acte très fort.
Donc, il y a trois postulats. Le premier, c'est de dire que l'homme est mu par sa recherche de sens.
Ouais.
Le deuxième, c'est que la vie a un sens. Et le troisième, c'est la liberté de la volonté. L'être humain est libre, en dépit de tous les conditionnements qui peuvent l'affecter. La marge de manœuvre peut être grande, peut être restreinte, mais jamais nulle.
Ouais.
L'être humain a toujours la possibilité de se positionner face à ce qui arrive.
Alors ça, c'est à mettre en perspective avec ce qu'on sait aujourd'hui, nous, de nos multiples conditionnements. On est quand même largement conditionné. Mais là encore, il y a une affirmation philosophique forte, un acte de volonté qui dit oui, mais malgré tout, on est libre.
Ouais.
On a une marge, même si elle est minime, à nous de la découvrir, de jouer dessus. On a une marge de liberté.
Oui. Notre vocation est là.
Voilà, tout à fait.
Alors, de cette liberté de l'être humain découle la notion de responsabilité. Si on est libre, si on a une part de liberté,
on est donc responsable de ce qu'on va en faire.
Responsabilité.
Ouais.
Nous sommes responsables de nos choix et de nos positionnements.
Totalement.
Alors, Frankl disait aux Américains qu'ils avaient la statue de la liberté sur la côte Est, c'est ça, et qu'ils devraient ériger la statue de la responsabilité sur la côte Ouest pour que les deux soient équilibrés.
C'est génial, hein, c'est génial comme idée.
Alors, donc pour Frankl, les deux vont ensemble, la liberté et la responsabilité.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, en résumé, la personne est dirigée vers le sens, qui est la voie de son accomplissement. Ça, c'est la première affirmation. Le sens existe toujours, deuxième affirmation. Et la liberté pour s'y diriger est réelle.
D'accord,
Ainsi,
très bien.
La personne est responsable pour choisir ce qui a de la valeur, ce qui réalisera sa vocation d'être humain.
Ok, bah écoute, on va faire une deuxième pause musicale après déjà ce premier parcours qui est tout à fait éclairant. Surprise! Thank you. Radio-Canada 100.9, vous êtes sur Poker Menteur, une émission consacrée à la logothérapie, et nous venons d'entendre deux musiciens français, Jean-Marie Veillon et Yvon Rioux, qui nous ont exécuté une petite valse celtique. Donc nous sommes en plein dans la découverte de ce qu'est la logothérapie grâce à notre invité Hervé Bruno, à qui je vais à nouveau laisser la parole, qui va pouvoir continuer. Nous t'écoutons.
Alors je commence par une question, quelles sont les valeurs qui réalisent notre vocation d'être humain ? Question philosophique.
Donc nos valeurs, voilà.
Qu'est-ce qui a de la valeur dans une vie humaine ?
Ouais, bonne question.
Frankl distingue trois familles de voies pour se diriger dans une vie pleine de sens. Ces trois familles, c'est les valeurs du vécu, les valeurs de création et les valeurs d'attitude. Alors pour aller vite, les valeurs du vécu, c'est ce qu'on reçoit de la vie.
D'accord.
L'amour d'une personne, l'art, la gratitude offerte par quelqu'un d'autre, ces moments de joie que nous vivons qui sont offerts par la vie.
Voilà.
Donc ça, c'est une tâche pour l'homme, c'est d'accueillir
ces gratifications.
Ces gratifications, voilà. Mm-hmm. Les valeurs de création sont les valeurs de ce qu'on apporte à la vie.
Ce que nous apportons,
oui, voilà.
C'est le sens inverse.
Voilà, oui. Mm. Un cours bien préparé pour un enseignant, la construction d'un pont pour un ingénieur ou un maçon. L'investissement dans une association aussi.
Ouais,
donc
tout,
tout ce que l'on apporte, qui sont importantes, surtout pour une personne en pleine possession de ses moyens.
D'accord.
Ce qu'on apporte. Et puis, il y a les valeurs d'attitude. C'est la position que l'on adopte face à ce qui nous arrive et qu'on ne peut changer.
Et ça, c'est peut-être le plus difficile, alors.
C'est la plus élevée des attitudes.
Oui, tout à fait. Donc, l'exigence la plus forte. Ouais. L'attitude qu'on adopte face à ce qui nous arrive.
Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Nous avons le choix, nous avons toujours le choix de l'attitude.
Et voilà.
Qu'on adopte face à ce qui
nous arrive. Et voilà, parce que je repense à son expérience des camps de concentration, où il est dans l'expérience ultime la plus dure qui soit, et malgré tout, il arrive à dire ça.
Je rappelle la phrase que j'ai citée tout à l'heure. Il n'existe pas de situation que tu ne puisses ennoblir, soit en agissant, soit en acceptant.
Ouais.
Donc, agir, c'est les valeurs de création.
Ouais, voilà.
Accepter, c'est la valeur d'attitude. Et puis, il y a aussi les valeurs du vécu qui sont accueillir ce que la vie nous offre de gratifiant.
D'accord.
Donc, nous avons cette liberté d'agir dans le sens de ces valeurs, ce qui est le sens du mot responsabilité. C'est-à-dire que nous répondons à la vie par nos choix, par notre attitude.
D'accord. Ouais.
Je vous propose de nous arrêter un moment sur ce que Frankl dit de notre liberté et responsabilité par rapport au tragique de notre existence.
Oui, parce que globalement, si on demandait à beaucoup de monde, on arriverait à s'accorder facilement sur le fait que l'existence est tragique, n'est-ce pas ?
Elle peut être tragique.
Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire là-dessus ?
Donc, il dit trois mots, la souffrance, la faute, culpabilité et la mort. Face à ces réalités, il maintient qu'il n'y a pas de situation d'où nous ne pouvons sortir victorieux. En nous montrant dignes de ce qu'est être une personne humaine.
D'accord.
Alors, je vais aller vite. Face à la mort, il dit que nous pouvons contempler les granges remplies. Tout ce que nous avons vécu est vécu, est réel.
Ce que nous avons vécu et accompli.
Oui. C'est passé d'une possibilité dans le futur à une réalité, parce que ces possibilités ont été concrétisées dans le présent.
Voilà.
Et du coup, elles appartiennent au passé. Si elles appartiennent au passé, elles sont de l'ordre de la réalité et ne pourront pas nous être enlevées.
Voilà, tout à fait.
Donc, par rapport à la mort, par rapport à la finitude de notre vie, il dit que ce n'est pas désespérant, mais c'est des choses que nous avons engrangées. Voilà, c'est l'image des granges remplies.
Oui, tout à fait.
Alors, une autre facette du tragique de notre existence, c'est la culpabilité. Face à la faute, que faisons-nous ? Est-ce que nous allons trouver des excuses pour nous dédouaner ? Ou au contraire, nous morfondre dans la culpabilité morbide ?
Voilà, c'est les deux extrêmes dans lesquels on tombe, l'un ou l'autre. Hein. Voilà. Soit on dit non, c'est pas de ma faute, monsieur, soit on dit je suis trop nul, quoi.
Voilà. Alors, Viktor Frankl avait fait une conférence dans une prison aux États-Unis où il affirmait cette liberté et cette responsabilité aux détenus et il avait été très bien accueilli.
Ouais.
À savoir qu'il honorait la liberté de leurs actes.
Dans un lieu où pourtant le c'est pas de ma faute, monsieur, est assez dominant quand même.
Il peut être dominant.
En théorie.
Oui, tout à fait. Donc la logothérapie va aider la personne à rechercher des chemins de sens en dépit de la faute commise. Par exemple, un automobiliste qui aurait blessé gravement une personne sous l'emprise de l'alcool pourra peut-être découvrir un appel à s'engager au service des blessés de la route.
Voilà. Ouais,
donc de cette faute, il peut faire une victoire. Au service de la vie.
D'accord.
Le troisième terme de la triade tragique, c'est la souffrance. Donc ça peut être la souffrance infligée par un tiers ou bien un coup du destin.
Oui.
il y a une manière de vivre la souffrance qui force le respect. Je pense à des personnes, des amis qui sont décédés après une longue maladie. Mm-hmm. Et la manière dont ils ont vécu leur fin de vie, une manière humaine, une manière... Mm-hmm. Ils continuaient à être attentifs aux autres. Mm-hmm. Pour moi, c'est l'expression d'une victoire. Voilà,
D'accord.
D'une victoire dans un contexte difficile.
D'accord, tu veux dire vivre sa souffrance en restant attentif aux autres, c'est ça que tu nous dis ?
Oui, tout à fait. Mm-hmm. À leur décès, j'étais triste, mais aussi reconnaissant pour la leçon de vie qu'ils m'avaient transmise.
D'accord.
Alors, il faut ajouter ici que le sens n'est pas comme une station-service, c'est pas automatique, il peut pas être décidé à l'avance. Je peux pas dire si je suis malade, je trouverai un sens à la vie de cette manière-là, non.
Ouais, ouais.
Seule la personne, dans sa situation, peut trouver un sens à sa vie qui ne peut pas être dicté de l'extérieur.
Alors, oui, d'accord.
Okay. C'est la personne qui découvre un sens, la possibilité qui s'offre à elle de vivre humainement sa vie telle qu'elle se présente.
Ok, donc c'est à chacun de découvrir ce sens, d'où la question que je vais te poser qui me paraît logique, c'est, oui, mais dans ce cas-là, en quoi consiste l'action du logothérapeute ? Ou est-ce qu'il est vraiment utile, ce logothérapeute ?
Alors, tout à fait, c'était une bonne question. Il y a une autre triade dont je n'ai pas encore parlé, c'est celle qui se rapporte à l'image de l'homme.
Ouais.
Parce que le logothérapeute, ce qu'il va tenir ferme, c'est l'image de l'homme.
Ouais.
Frankl dit que l'homme est à la fois psychologique, mm-hmm. physique mm-hmm. et noétique.
Oula.
Alors, on pourrait dire psychologique, physique et spirituel.
Spirituel.
Mais en français, spirituel, ça a une connotation religieuse.
D'accord.
Que Frankl ne souhaitait pas. Donc,
d'accord.
Il dit noétique. Qu'est-ce que ça veut dire noétique ? Ça veut dire que l'homme n'est pas qu'un psychisme et un corps.
Mm.
Il n'est pas entièrement soumis aux lois de la matière et de la psychologie.
D'accord. Là encore, une affirmation forte également.
Voilà, ouais. Ouais. Et il ne nie pas que nous sommes conditionnés socialement, psychologiquement, biologiquement, mais il dit qu'il y a dans l'être humain une dimension qui est irréductible, qui est celle de l'esprit. En allemand,
voilà.
C'est le mot Geist. Le
fameux Geist allemand, oui.
Qui fait l'homme libre toujours. Donc, le noétique peut s'opposer au physique et au psychologique,
d'accord.
Alors que physique et psychologique vont toujours de pair.
La dimension
psychosomatique, ça va ensemble. Je cite Frankl, l'être humain n'est pas conditionné. Il a le choix d'accepter les conditions qui l'entourent ou de s'y opposer. Il façonne lui-même sa vie à chaque moment.
Il faut s'appuyer sur ce noétique pour aller dans le sens de la découverte du sens de sa vie, en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Il faut s'appuyer là-dessus. Il faut que le logothérapeute ait en tête cette image de l'homme pour pouvoir aider la personne.
Très bien.
Alors, je vais vous présenter brièvement ce qu'il appelle l'autodistanciation et l'autotranscendance.
Mm-hmm.
Pour lui, l'autodistanciation...
Oui, l'autodistanciation et l'autotranscendance. Alors là, tu rentres un peu dans la mécanique de l'accompagnement, de la logothérapie en tant que thérapie, en quelque sorte.
Alors, très bien. Peut-être qu'on va pouvoir faire une pause pour...
Tu vas commencer à nous dire deux, trois petites choses là-dessus. Et puis ensuite, on fera une petite pause, d'accord ?
D'accord.
Donc, vas-y.
Alors, l'autodistanciation, c'est la personne qui est capable de prendre de la distance par rapport à elle-même, à se représenter comme s'il s'agissait d'un autre. Par exemple, dans les conditions du camp de concentration, Frankl observait que certains détenus faisaient de l'humour par rapport à leur situation.
Mm-hmm.
Et cette capacité est une capacité humaine de pouvoir se distancier de soi-même.
Mm-hmm.
L'autre capacité noétique, l'autre capacité de l'esprit humain, c'est l'autotranscendance. C'est l'aptitude de la personne à voir au-delà d'elle-même, de se tourner vers l'extérieur.
D'accord.
Je cite Frankl pour terminer. « Être homme, c'est toujours déjà se dépasser soi-même, et cette transcendance de soi-même est l'essence de l'existence humaine.
Mmh, » mmh.
Voilà.
Alors, ce qu'on va faire pour pouvoir réfléchir un petit peu à tout ça tranquillement en musique, on va écouter encore une fois un morceau surprise que nous vous citerons ensuite. Et ensuite, on reprendra le fil de cette réflexion.
Poker Menteur.
Poker Menteur. Galade. Eh oui, vous êtes sur votre émission mensuelle favorite Poker Menteur. Aujourd'hui, nous parlons de la logothérapie. Nous venons d'écouter un groupe que vous connaissez sans doute. Je rigole un peu parce que moi je ne connaissais pas. Il s'appelle Mugar. Mugar, un groupe celtico-berbère. Je trouve ça génial et c'était génial. Le titre s'appelait L.I.A. C'est un groupe avec beaucoup de flûte. Tu es très sensible à la flûte comme instrument puisque tu viens de nous dire hors antenne que tu pratiques toi-même la flûte irlandaise celtique.
Oui, low whistle.
Low whistle, bravo. Alors, tu vas reprendre, si ça t'embête pas, mon cher Hervé, qui est notre invité pour nous parler de la logothérapie, les deux derniers thèmes que tu, oui. termes que tu avais un petit peu expliqués pour expliquer la pratique de l'accompagnement logothérapeutique.
Voilà, oui. Je disais que le logothérapeute, tu te posais la question à quoi il sert. En fait, il va consister à reconnaître dans la personne ces deux capacités d'autotranscendance et d'autodistanciation. Ouais. Et ces deux capacités sont en même temps qu'être une capacité, des capacités, ce sont des moyens pour l'accomplissement de leur vie.
D'accord, des sortes de leviers.
C'est ça, oui, tout à fait, on peut dire ça.
D'accord.
Donc l'autodistanciation, j'avais donné un exemple avec l'humour, par
exemple.
Oui,
tout à fait, donc ça c'est assez clair. Hein,
ouais. Et l'autotranscendance, c'est le fait qu'être homme, c'est toujours s'ouvrir vers l'extérieur et vers les autres.
Vraiment cette idée qu'on a évoquée au début d'être tourné vers les autres, mais voilà. Vers le monde.
Ouais, ouais. C'est pas moral en sens c'est bien de se tourner vers les autres, c'est bien de faire attention aux autres, mais c'est que la personne elle s'accomplit dans le fait de ne pas se regarder de nombril, mais dans le fait de se tourner vers l'extérieur.
La voie incontournable pour définir le sens de sa vie, c'est être tourné vers les autres.
Voilà. Et vers l'extérieur.
Et vers l'extérieur, et vers le monde, etc.
Voilà, parce que l'art, par exemple, c'est une manière de s'ouvrir vers le monde.
Tout à fait. Et donc, le logothérapeute est là pour aider la personne à prendre conscience de ça et à utiliser ces deux leviers.
La marche à pied aussi, le fait de s'ouvrir à la nature, des paysages, c'est une activité logothérapeutique. Même si la logothérapie n'en a pas l'exclusivité.
Tout à fait.
Je vais parler des méthodes utilisées par le logothérapeute et ça va illustrer ces deux dimensions d'autodistanciation.
La boîte à outils du logothérapeute.
Il y en a beaucoup d'outils. Il y a l'entretien socratique, il y a ce qu'on appelle l'entretien concentré aussi, qui est à partir d'une œuvre que la personne exprime ce que ça lui fait, ce qu'elle ressent.
D'accord.
Je vais en développer deux. L'une, c'est la plus connue de Viktor Frankl, c'est l'intention paradoxale.
Ouais.
Et l'autre, c'est les groupes de déréflexion qui pourront illustrer ces deux termes que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est lorsqu'il était responsable du pavillon des femmes suicidaires dans les années 30-36 que Viktor Frankl a élaboré cette méthode de l'intention paradoxale. Donc, je vais vous citer le passage d'un des livres de Viktor Frankl.
Oui.
Qui illustre bien l'intention paradoxale. Donc, je cite, « À titre de pièce justificative, prenons le cas de Mme Rosa L. Le docteur Mme Becker a pu la guérir dans le cadre d'une seule conversation, alors qu'elle souffrait depuis 20 ans de l'obsession d'avoir oublié si elle avait fermé sa porte.
Voici... » Je ris, mais c'est pas drôle pour elle. Comment se passe ? On se moque pas des gens comme ça.
Vas-y. Voici la retranscription d'un enregistrement au magnétophone. J'avais oublié un jour de fermer ma porte. Quand je suis rentré à la maison, la porte était ouverte. J'ai eu terriblement peur. Depuis, dès que je suis parti, je m'imagine toujours que la porte est restée ouverte. Je dois chaque fois revenir sur mes pas pour contrôler.
C'est ce qu'on appelle les troubles obsessionnels compulsifs.
Oui, je crois que c'est
on
ça.
On est d'accord.
Tout au long de ces 20 ans, je savais bien que mes craintes étaient sans fondement. Chaque fois que je revenais contrôler, je trouvais la porte bien fermée. Je me sentais néanmoins contrainte d'obéir à cette obsession. J'en avais perdu toute joie de vivre.
Oui, ça doit être terrible à vivre. De l'extérieur, on rigole, mais ça doit être terrible à vivre.
Maintenant, depuis que j'ai été voir le docteur Becker, je me dis chaque fois, dès que je ressens cette impulsion à aller contrôler, si la porte est ouverte, eh bien, qu'elle reste ouverte. Que l'on vide complètement ma maison, que l'on n'y laisse rien. Je peux alors poursuivre mon chemin.
Et voilà, ça c'est génial, hein, l'intention paradoxale, c'est génial, c'est comment désamorcer le piège mortel en quelque sorte qu'elle s'est construite elle-même.
Voilà, oui.
C'est vraiment génial comme idée.
Et c'est différent de l'injonction paradoxale.
Qui a été inspirée de l'intention paradoxale, donc on pourrait dire que Viktor Frankl s'est fait volé son idée, entre guillemets, par les psychologues de l'école de Palo Alto, notamment, hein, très célèbre dans les années 70. Moi, je connaissais l'injonction paradoxale, mais pas l'intention. Je me suis aperçu que l'intention était avant.
Elle était avant, et il y a une différence, c'est que l'injonction paradoxale vient de l'extérieur.
Ouais.
C'est quelqu'un qui nous enjoint un exercice.
Le psychiatre, dans ce cas-là,
Alors que l'intention paradoxale, c'est l'accompagnateur, le logothérapeute, le thérapeute, disons, qui va aider la personne à choisir elle-même sa thérapie. Elle choisir elle-même ce qui va la libérer de son obsession.
Donc il faut quelque part la guider sur le chemin de la bonne solution, comme dans ce cas-là, la dame qui dit « mais j'en ai rien à foutre, t'as qu'à vider ma maison ».
Voilà, qu'on exagère même, qu'on la vide.
Ouais, bien sûr, en allant très loin dans l'extrême inverse.
Qu'on la vide complètement.
D'accord, donc ça c'était le premier outil,
Oui, alors peut-être que je peux j'ai encore un petit peu de temps.
Oui, t'as encore le temps.
Je la trouve extraordinaire cette méthode.
C'est un coup de génie sur le plan thérapeutique.
Ouais, ça travaille sur l'attitude par rapport à l'obsession. Plutôt que de craindre l'obsession, la personne va souhaiter ce qu'elle craint.
Exactement.
Elle ne va pas craindre son obsession, elle va souhaiter, non pas son obsession, mais l'objet de sa crainte.
Voilà.
Elle va remplacer la focalisation sur la peur par la focalisation sur ce qui est craint, ce qui la libère de l'emprise de l'obsession. Voilà. Et ça, c'est une thérapie qui fait appel à l'humour chez la personne.
Ouais, aussi, distanciation.
Voilà. Ça illustre la capacité d'autodistanciation.
Ouais.
Cette capacité qui permet à la personne d'aller mieux, de réaliser un sens. Voilà.
D'accord.
Donc, l'intention paradoxale. La deuxième méthode sur laquelle je vais mettre le focus, c'est la déréflexion. Ça consiste à sortir de ce que Frankl appelait l'hyper-réflexion sur son problème. L'élève la plus connue de Viktor Frankl, c'est Elisabeth Lucas, qui a mis en place des groupes de déréflexion pour des femmes atteintes du cancer. Le groupe se réunissait pour parler, et la seule règle, c'était qu'on ne parlait pas de sa maladie.
Ça, c'est extraordinaire aussi. Parce que généralement, on connaît les groupes de parole, mais ils parlent de quoi ? De leurs problèmes.
Voilà.
Les alcooliques anonymes parlent d'alcool, machin, etc.
Ouais.
Et en fait, là, tu te réunis pour parler d'autre chose.
Voilà,
c'est incroyable.
Les paroles parlent de leurs passions, de leurs occupations. Ce groupe visait à ouvrir le regard des personnes sur le monde. Ça illustre ce que je disais tout à l'heure sur...
Voilà, l'ouverture nécessaire.
Ouais, l'ouverture au monde. Les personnes ont cette capacité de s'ouvrir sur le monde, et le logothérapeute vient renforcer cette capacité. On voit sur cet exemple que l'accompagnement du logothérapeute fait donc appel à cette capacité d'auto-transcendance chez les personnes, la capacité de s'ouvrir au monde.
D'accord. Et puis un aspect aussi, à travers ce que tu es en train de décrire au niveau des groupes, c'est que cet aspect, un aspect en tout cas de cette logothérapie, peut être également quelque chose de collectif et pas uniquement en face à face avec un logothérapeute.
Tout à fait, oui. Le setting, le cadre de l'accompagnement logothérapeutique n'est pas seulement le face à face.
Pas exclusivement en face à face.
Tout à fait, oui.
Intéressant.
Donc, il y a plein de manières de faire de la logothérapie. Certaines existent déjà et d'autres restent à inventer.
D'accord.
Je cite l'exemple en France de la Révothèque. C'est un logothérapeute qui est dans une roulotte et qui propose aux personnes de ralentir, raconter et rêver.
D'accord.
Pour les ouvrir aussi.
D'accord.
Au monde, et puis pour les aider à prendre une distance par rapport à...
On est un peu dans l'idée du rêve éveillé qui est utilisé aussi par certaines tendances, non ?
C'est pas le rêve éveillé, non, c'est
autre chose.
Oui, c'est des personnes qui entrent dans cette roulotte, et il y a des objets qui sont disposés dans la roulotte, et
D'accord.
puis les personnes peuvent s'exprimer, mais c'est pas un dispositif comme
D'accord, c'est un dispositif différent.
Il y a aussi en France des séjours logothérapeutiques, enfin, il y a plein de choses qui sont inventés, qui sont inspirés par la logothérapie. En Allemagne aussi, il y a des... Alors en Allemagne, ils sont 500 à 600 logothérapeutes.
C'est beaucoup plus... Alors qu'en France, c'est combien ?
30.
Voilà, donc en Allemagne, c'est très, très, très développé. En France, ça reste marginal.
Oui, tout à fait, oui. En Allemagne, il y a des logothérapeutes dans les grandes entreprises dont le travail, c'est Monsieur Sens ou Madame Sens pour aider les salariés. Donc, pour terminer, je vais faire une petite conclusion, si tu
Vas-y,
me permets.
Vas-y, fais une petite conclusion, puis après, je te donnerai... mon avis personnel.
Très bien. Alors je fais court pour entendre ton avis. Je dirais que la logothérapie, c'est d'abord connaissance de soi. Elle se distingue de la psychanalyse en ce que la connaissance de soi n'est pas l'introspection. Frankl disait que la logothérapie, c'est la psychologie des hauteurs, contrairement à celle de Freud, qui est la psychologie des profondeurs.
Des profondeurs, totalement.
Comment se connaît-on ? En regardant ce que nous avons donné au monde et reçu de lui,
voilà.
En considérant ce que les autres connaissent de nous. En d'autres termes, regardez nos valeurs qui ont été concrétisées. Ce sont ces valeurs qui nous attirent et elles seront un précieux indicateur sur l'endroit où chercher le sens.
D'accord.
Ma formatrice nous dit « Lorsque les yeux du patient brillent, là est le musicien, l'artiste, la personnalité. La connaissance de ses propres valeurs éclaire notre situation et là où nous pouvons diriger nos pas.
C'est génial.
Oui. ça te plaît ?
Ah bah oui, ça me parle, ouais, je trouve ça extraordinaire. Ouais.
La logothérapie, c'est un déplacement du regard qui fait voir les choses autrement. Des fois, nous avons envie de dire pourquoi moi, pourquoi ça s'est passé comme ça ? C'est des questions que nous posons à la vie.
Tout à fait.
Et la logothérapie nous invite à renverser la question. Dans chaque situation de nos vies, la vie nous pose la question. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire dans cette situation ?
Voilà.
Comment vas-tu en faire une victoire ? Voilà.
Bah écoute, moi je trouve ça génial. Quand on sait, après il suffit d'observer autour de nous, puis tout au long d'une vie, que à mon avis, un des éléments majeurs du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle, c'est la question du sens des personnes qui, à un moment ou à un autre, se posent la question, mais c'est quoi ma vie ? Qu'est-ce que j'en fais ? Ça, c'est vide. Qu'elle soit réussie ou pas, c'est même pas la question. Dans tous les domaines, des gens qui ont réussi leur vie ou qui n'ont pas réussi, ils se posent, il y a un moment de vide où on ne sait pas quel est le sens de sa vie. Et là, arrive Viktor Frankl et arrive toute cette constitution théorique et cette proposition pour dire « Mon petit gars, viens voir, on va réfléchir ensemble et voilà, il y a un chemin qui... Tu vas trouver, tu vas voir. Je trouve ça génial.
Ouais, c'est
ça
génial. Ce qui me passionne, aider les personnes à avancer sur ce chemin.
Et c'est pourquoi, je rajoute, donc, nous allons mettre en podcast cette émission avec un petit texte qui précède le podcast, comme d'habitude, donc sur radio-calade.fr, émission Poker Menteur. Et nous mettrons tes coordonnées, d'accord, Hervé, si tu le veux bien, mais je crois que tu étais d'accord, pour toute personne qui désirerait commencer à tenter des séances de logothérapie.
Alors, je ne suis pas logothérapeute.
D'accord. Dans le cadre d'une formation.
C'est bien clair. Dans le cadre d'une formation, je propose à des personnes d'être des patients zéro, de m'aider à monter en compétences. Donc, les gens qui sont d'accord pour un entretien ou plusieurs, je serai.
Donc, dans ce cadre-là, tu fais ça à titre gratuit pour l'instant.
Oui, bien sûr.
Tout à fait. Donc, avis à toute personne qui aura envie de tenter ça. On est dans des logiques de thérapie de court terme, on va dire. Ce n'est pas des choses qui vont se dérouler sur des mois et des mois. D'accord ?
Deux ou trois entretiens.
Mais voilà. Donc, avis à la population, aux auditeurs de Radio Calade. Hervé, c'était une émission passionnante. On a découvert quelque chose de nouveau et de très fort. Donc,
merci.
On te remercie vraiment d'être venu nous éclairer et nous enrichir notre vision du monde.
Merci pour ton invitation. Merci pour ton écoute.
D'accord. Mathieu, merci d'être là à la technique pour me soutenir alors que je suis tout malheureux sans mon Franck à moi. Donc, on dit aux auditeurs de Radio Calade une bonne fin de journée, une bonne fin de mois de janvier et puis à très bientôt.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde
de Villefranche à Tataouine.
Calade 100.9.